Je vécus 4 mois dans ces conditions indescriptibles. 4 mois, c'est vite écrit et c'est vite dit. Un quart de seconde suffit à articuler ces 3 syllabes. 4 mois. Quelques caractères suffisent à les noter. Mais comment peindre, comment exprimer, fût-ce pour soi-même, une vie qui s'écoule hors de l'espace et du temps? Personne ne dira jamais comment vous ronge et vous détruit ce vide inexorable. De quelle manière agit sur vous la vue de cette perpétuelle table et de ce lit, de cette perpétuelle cuvette et de ce papier au mur, ce silence auquel on vous réduit, l'attitude de ce gardien, toujours le même, et qui pose la nourriture devant son prisonnier sans lui jeter un regard. Des pensées, toujours les mêmes, tournent dans le vide autour de ce solitaire jusqu'à ce qu'il devienne fou. À de petits signes inquiétants, je connus que mon cerveau se détraquait. Au début, j'avais la tête claire durant les audiences et je faisais des dépositions calmes et réfléchies. Je triais parfaitement dans mon esprit ce qu'il fallait dire et ce qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, je n'articulais plus même une phrase toute simple sans bégayer, car tout en la prononçant, je fixais hypnotisé la plume du greffier qui courait sur le papier, comme si je voulais courir après mes propres paroles. Je sentais que mes forces diminuaient et qu'approchait le moment où, dans l'espoir de me sauver, je dirais tout ce que je savais et peut-être davantage encore. Ou, pour échapper à l'emprise mortelle de ce néant, je trahirais 12 hommes et leurs secrets. Dussé-je n'y gagner qu'un instant de répit. J'en étais là un certain soir. Le gardien m'apporta justement à l'heure à manger, et je lui criai en suffoquant, au moment où il s'en allait, « Conduisez-moi à l'interrogatoire, je dirai tout, je dirai où sont les papiers, où est l'argent, je dirai tout, tout. » Par bonheur, il n'entendit pas. Peut-être aussi ne voulut-il pas entendre. J'en étais réduit à cette extrémité quand se produisit un événement inattendu, qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. C'était un jour sombre et maussade de la fin de juillet. Je me souviens très bien de ce détail parce que la pluie tambourinait sur les vitres, le long du couloir par lequel on m'emmenait à l'interrogatoire. On me fit attendre dans l'antichambre du juge d'instruction. Il fallait toujours attendre avant de comparaître, cela faisait partie de la méthode. On commençait par ébranler les nerfs de l'inculpé en l'envoyant chercher brusquement au lieu de la nuit, puis, lorsqu'il s'était ressaisi, bandant toutes ses énergies en vue de l'audience, on le faisait attendre absurdement 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de l'interroger, pour le mater corps et âme. Je restais debout dans cette salle d'attente 2 bonnes heures durant, ce jeudi 27 juillet. Et voici pourquoi je me rappelle si précisément cette date. Il y avait un calendrier suspendu au mur, et tandis que les jambes me rentraient dans le corps à force d'être debout, il était bien entendu interdit de s'asseoir, je dévorais des yeux dans une soif de lecture que je ne peux pas vous décrire ce chiffre et ce petit mot, 27 juillet, qui se détachait contre la paroi, car je les incorporais quasiment à ma matière grise. Puis je me remis à attendre, à regarder la porte, à me demander quand elle s'ouvrirait enfin, à réfléchir à ce que les inquisiteurs me demanderaient cette fois, tout en sachant bien qu'ils ne me poseraient pas les questions auxquelles je me préparais. Malgré l'anxiété de cette attente, malgré la fatigue qu'elle me causait, c'était encore un soulagement d'être ainsi dans une autre chambre que la mienne, une chambre un peu plus grande, éclairée de 2 fenêtres au lieu d'une, sans lit et sans cuvette, où l'appui de fenêtre ne présentait pas certaines fentes que j'avais remarquées des millions de fois dans la mienne. La porte avait un vernis différent, la chaise aussi devant le mur était autre. À gauche, il y avait une armoire pleine de dossiers et un vestiaire avec des patères auxquels pendaient 3 ou 4 manteaux militaires mouillés, les manteaux de mes bourreaux. Ainsi, j'avais des objets nouveaux à regarder, à examiner. Enfin du nouveau. Et mes yeux frustrés se cramponnaient avidement au moindre détail. Je considérais chaque pli de ces manteaux et je remarquais, par exemple, une goutte de pluie au bord d'un col mouillé. J'attendis avec une émotion insensée, cela va vous paraître ridicule, de voir si elle allait couler le long du pli ou se défendre encore contre la pesanteur et s'accrocher plus longtemps. Oui, je fixais haletant cette goutte pendant plusieurs minutes, comme si ma vie en dépendait. Et lorsqu'elle fut enfin tombée, je me mis à compter les boutons sur chaque manteau, 8 au premier, 8 au second et 10 au troisième. Puis je comparais les parements entre eux. Mes yeux buvaient tous ces détails stupides et insignifiants. Ils s'en repaissaient, s'en délectaient avec une passion que je ne pus exprimer par des mots. Et soudain, ils s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté la poche de l'un des manteaux. Je m'approchai et crus reconnaître, à travers l'étoffe tendue, le format rectangulaire d'un livre. Un livre. Mes genoux se mirent à trembler. Un livre. Il y avait 4 mois que je n'en avais pas tenu dans ma main, et sa simple représentation m'éblouissait. Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres, des lignes, des pages, des feuillets que je pourrais tourner. Un livre où je pourrais suivre d'autres pensées, des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne et que je pourrais garder dans ma tête. Quelle trouvaille enivrante et calmante à la fois. Mes regards se fixaient, hypnotisés, sur cette poche gonflée où se dessinait la forme du livre. Ils étaient aussi brûlants regardant cet endroit banal que s'ils voulaient faire un trou dans le manteau. Je n'y tins plus, et sans le vouloir, je m'approchai encore. À la seule idée de palper un livre, fût-ce à travers une étoffe, les doigts me brûlaient jusqu'au bout des ongles. Presque sans le savoir, je me rapprochais toujours davantage. Le gardien ne prêtait heureusement aucune attention à mon étrange conduite. Peut-être trouvait-il simplement naturel qu'un homme veuille s'appuyer un peu à la paroi après être resté 2 heures debout. Je finis par arriver près du manteau et je mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement. Je tâtai l'étoffe et y sentis en effet un objet rectangulaire qui était souple et craqué un peu. Un livre. C'était bien un livre. Comme l'éclair, la pensée jaillit dans mon cerveau. Essaye de le voler. Peut-être réussiras-tu. Et alors tu pourras le cacher dans ta cellule et lire, lire, lire enfin, lire de nouveau. À peine cette pensée m'était-elle venue qu'elle agit sur moi comme un violent poison. Mes oreilles se mirent à bourdonner. Le cœur me battit, mes mains glacées ne m'obéirent plus. Cependant, la première stupeur passée, je me serrai astucieusement contre le manteau et tout en gardant les yeux fixés sur le gardien, je fis peu à peu remonter le livre hors de la poche. Hop, je le saisis avec adresse et précaution, et je tins soudain dans ma main un petit volume assez mince. Alors seulement je fus effrayé de ce que je venais de faire, mais je ne pouvais plus reculer. Où le mettre maintenant? Toujours derrière mon dos, je glissai le livre dans mon pantalon sous la ceinture et de là tout doucement jusque sur la hanche de manière à pouvoir le tenir en marchant, la main sur la couture du pantalon comme il se doit militairement. Il s'agissait à présent de mettre ma ruse à l'épreuve. Je m'écartai du vestiaire. Je fis un pas, 2 pas, 3 pas. Cela allait. Je parvenais à maintenir le livre à sa place en marchant, si je gardais le bras bien collé au corps à l'endroit de la ceinture. Vint alors l'interrogatoire. Il exigea de moi un plus gros effort que jamais, car toute mon attention se concentrait sur le livre et sur la façon dont je le tenais, plutôt que sur ma déposition. Par bonheur, l'audience fut courte ce jour-là, et je rapportai le livre, sain et sauf, dans ma chambre. Je vous fais grâce des détails, il glissa bien une fois fort dangereusement à l'intérieur de mon pantalon pendant que je longeais le couloir, et il me fallut simuler un violent accès de toux pour me courber en deux et le repousser discrètement sous ma ceinture. Mais quel instant inoubliable que celui où je me retrouvais dans mon enfer, enfin seul, et cependant cette précieuse compagnie. Vous vous imaginez sans doute que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire. Je n'en fis rien. Je voulus d'abord savourait toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre, et je retardais à dessein le moment de le voir, pour le plaisir excitant de rêver, en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Surtout imprimé très serré, avec le plus de textes possible, des feuillets très très fins, afin que j'aie plus longtemps à lire. J'espérais aussi que ce serait une œuvre difficile, qui demanderait un gros effort intellectuel, rien de médiocre, quelque chose qui puisse s'apprendre, qui se puisse apprendre par cœur, de la poésie, et de préférence, quel rêve téméraire, Goethe ou Homère. Enfin, je ne contins plus mon désir et ma curiosité. Étendu sur mon lit, de façon que le gardien, s'il entrait tout à coup, ne puisse me surprendre, je tirai en tremblant le livre de sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre que j'avais escamoté au prix des plus grands dangers, ce livre qui avait éveillé en moi de si brûlants espoirs, n'était qu'un manuel d'échecs. Une collection de 150 parties jouées par des maîtres. N'eussais-je pas été enfermé et verrouillé, j'aurais dans ma colère jeté le livre par la fenêtre, car au nom du ciel, que pouvais-je tirer de cette absurdité? Autant que j'étais au lycée, j'avais essayé, comme la plupart de mes camarades, de déplacer des pions sur un échiquier les jours où je m'ennuyais, mais comment me servir de cet ouvrage théorique? On ne peut jouer aux échecs sans partenaire, encore bien moins sans échiquier, sans pièces. Je feuilletais le volume 1. avec mauvaise humeur, dans l'espoir d'y découvrir tout de même quelque chose à lire, un avant-propos, des instructions, mais il ne contenait que les diagrammes tout secs, dans des encadrés de parties célèbres, avec au-dessous des signes qui me furent d'abord incompréhensibles. A2, A3, SF1, G3, et ainsi de suite. C'était, me semble-t-il, une sorte d'algèbre dont je n'avais pas la clé. Mais peu à peu, je compris que les lettres A, B, C désignaient les lignes longitudinales, les chiffres 1 à 8, les transversales, et que ces coordonnées permettaient d'établir la position de chaque pièce au cours de chaque partie. Ces représentations purement graphiques étaient donc une manière de langage. Je pourrais peut-être, me dis-je, fabriquer ici dans ma cellule une espèce d'échiquier, essayer ensuite de jouer ces parties. Grâce au ciel, je m'avisai que mon drap de lit était grossièrement quadrillé. Plié avec soin, il finit par faire un damier de 64 cases. Je cachai alors le livre sous le matelas, après en avoir arraché la première page, puis je prélevai un peu de mie sur ma ration de pain et j'y modelai des pièces, un roi, une reine, un fou et toutes les autres. Elles étaient bien informes, mais je parvins non sans peine à reproduire sur mon drap de lit quadrillé les positions que présentait le manuel. Néanmoins, lorsque je tentais de jouer une partie entière, j'échouais d'abord les premiers jours à cause de mes ridicules pièces en mie de pain que j'embrouillais continuellement parce que je n'avais pu mettre sur les noirs que de la poussière en guise de peinture. 5 fois, 10 fois, 20 fois, je dus recommencer cette première partie. Mais qui, au monde, disposait de plus de temps que moi dans cet esclavage où me tenait le néant? Qui donc aurait pu être plus avide et plus patient? Au bout de 6 jours, je jouais déjà correctement cette partie. 8 jours après, je n'avais plus besoin des pièces sans mie de pain pour me représenter les positions respectives des adversaires sur l'échiquier. 8 jours encore, et je supprimai le drap quadrillé. Les signes A1, A2, C7, C8, qui m'avaient paru si abstraits au début, se concrétisaient à présent automatiquement dans ma tête en images visuelles. La transposition était complète. L'échiquier et ses pièces se projetaient dans mon esprit, et les formules du livre y figuraient immédiatement des positions. J'étais comme un musicien exercé qui n'a qu'un coup d'œil à jeter sur une partition pour entendre aussitôt les thèmes et les harmonies qu'elle contient. Il me fallut encore 15 jours pour être en état de jouer de mémoire, ou selon la formule consacrée à l'aveugle, toutes les parties d'échecs exposées dans le traité. Je compris alors quel inappréciable bienfait ce vol audacieux m'avait valu. Car j'avais maintenant une activité absurde ou stérile, si vous voulez, mais une activité tout de même qui détruisait l'empire du néant sur mon âme. Je possédais, avec ces 150 parties d'échecs, une arme merveilleuse contre l'étouffante monotonie de l'espace et du temps. Pour conserver son charme à ma nouvelle occupation, je partageais désormais méthodiquement ma journée. 2 parties le matin, 2 parties l'après-midi, et le soir, une brève révision des 4. Ainsi, mon temps était rempli, au lieu de se traîner avec l'inconsistance de la gélatine, et j'étais occupé sans excès car le jeu d'échecs possède cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit et d'augmenter bien plutôt sa souplesse et sa vivacité. Cela vient de ce qu'en y jouant, on concentre toutes ses énergies intellectuelles sur un champ très étroit, même quand les problèmes sont ardus. J'avais d'abord suivi mécaniquement les indications du livre en reproduisant les parties célèbres, mais peu à peu cela devint pour moi un jeu de l'intelligence auquel je me plaisais beaucoup. J'appris les finesses, les ruses subtiles de l'attaque et de la défense, je saisis la technique de l'anticipation, de la combinaison et de la riposte. Bientôt, je fus capable de reconnaître la manière caractéristique de chacun des joueurs célèbres, aussi sûrement qu'on reconnaît un poète à quelques vers d'une de ses œuvres. Ce qui n'avait été d'abord qu'une manière de tuer le temps devint un véritable amusement, et les figures des grands joueurs d'échecs, Aletchine, Lasker, Bogoljoubeau, Tartakower, vinrent, tels de chers camarades, peupler ma solitude. La variété anima désormais ma cellule muette, et la régularité de ces exercices rendit leur assurance à mes facultés intellectuelles. Cette discipline d'esprit très exact leur donna même une acuité nouvelle, dont les interrogatoires bénéficièrent les premiers. Sans le savoir, j'avais sur l'échiquier amélioré ma défense contre les menaces feintes et les détours perfides. Dès lors, je n'eus plus aucune défaillance devant mes juges, et il me sembla que les hommes de la Gestapo commençaient à me regarder avec un certain respect. Peut-être se demandaient-ils par devers eux où je puisais la force de résister si fermement quand ils voyaient tous les autres s'effondrer. Ce temps heureux où je refis systématiquement les 150 parties du manuel dura environ 3 mois. Là, parvenu au point mort, je me retrouvai brusquement à nouveau devant le néant. Car une partie jouée 20 ou 30 fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté, sa vertu était épuisée pour moi. Quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties quand je savais chaque coup par cœur? L'ouverture déclenchait automatiquement les suivants, il n'y avait plus de surprise, plus d'émotion, plus de problème. Pour m'occuper, pour me rendre cet effort et ce divertissement dont je ne pouvais plus me passer, il eût fallu un second volume avec d'autres modèles. Comme c'était tout à fait exclu, il ne restait qu'une issue dans cette direction aberrante. Je devais inventer d'autres parties que j'essaierais de jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Eh bien, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plonge le roi des jeux, mais il suffit d'une seconde pour faire comprendre que, le hasard n'y ayant aucune part, c'est une absurdité de vouloir jouer contre soi-même. L'attrait du jeu d'échecs réside tout entier en ceci que deux cerveaux s'y affrontent, chacun avec sa tactique. L'intérêt de cette bataille intellectuelle vient de ce que les Noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les Blancs et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leurs intentions pour les contrecarrer, tandis que de leur côté les Blancs essayent de percer à jour les secrètes intentions des Noirs et les déjouer. Si donc les deux camps sont représentés par la même personne, la situation devient contradictoire. Comment un seul et même cerveau pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but il se propose, et, en jouant avec les Blancs, oublier sur commande son intention et ses plans, fait la minute précédente avec les Noirs. Un pareil dédoublement de la pensée suppose un dédoublement complet de la conscience, une capacité d'isoler à volonté certaines fonctions du cerveau, comme s'il s'agissait d'un appareil mécanique. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que vouloir marcher sur son ombre. Eh bien, pour me résumer, pendant des semaines, c'est à cette absurdité, à cette chose impossible, que le désespoir me fit tendre pendant des mois. Mais je n'avais pas le choix pour échapper à la folie et à la totale décrépitude de mon esprit. Mon atroce situation m'obligeait à tenter ce dédoublement de mon esprit entre un moi blanc et un moi noir, si je ne voulais pas être écrasé par le néant horrible qui me cernait de toutes parts.